Je vais vous décrire une scène et vous allez me dire si vous vous reconnaissez. Vous lancez votre agent sur une tâche et pendant qu'il travaille, vous, vous restez là. Vous lisez chaque ligne qu'il produit, vous suivez chaque commande, vous ne détournez jamais les yeux. Sur le papier, vous faites du développement assisté. En pratique, vous êtes un moniteur d'auto-école, assis à droite, le pied au-dessus du double frein, pendant que la machine conduit. Cette posture, je l'ai croisée partout dans la communauté. Des bâtisseurs équipés, abonnés, outillés, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à passer au niveau supérieur. Et presque tous, ils mettent ça sur quoi ? Leur discipline. Ils s'en veulent, ils n'ont jamais su coder, et cette histoire de volonté est certes séduisante, mais elle ne survit ni aux documents qu'on va lire ensemble, ni aux dossiers de l'été. Aujourd'hui, je vous propose de démonter ce blocage, pièce par pièce, document à l'appui. Et gardez un peu d'énergie pour la fin, parce que la grille qu'on va construire se retourne aussi contre ceux qui vous jugent.
Et tu freines ?
Je freine, Mich-Mich !
Ok !
Le 16 juillet, Boris Tcherny publie un fil sur X. Tcherny, au passage, c'est le créateur de Cloud Code chez Anthropic, l'outil qui a mis les agents dans le terminal de tout le monde. Et il y raconte qu'il parle chaque jour à des ingénieurs d'autres entreprises et qu'il entend partout dire la même histoire. Une personne décuple sa production avec les agents, mais le reste de l'organisation n'arrive pas à suivre. Et à force de voir le même film, il a cartographié une montée en 5 étapes, et aujourd'hui c'est cette cartographie qu'on va revoir ensemble. Étape 0, l'accès est verrouillé. L'entreprise a acheté un outil, mais les processus d'approbation l'étouffent et plus rien n'en sort. Étape 1, le binôme. Un ingénieur, un agent, tout est supervisé. C'est le moniteur d'auto-école dont je vous parlais. Étape 2, l'orchestrateur. Vous avez une dizaine d'agents en parallèle, chacun dans son bac à sable, et vous relisez les résultats finaux au lieu de regarder des frappes de clavier. Étape numéro 3, la centaine d'agents. L'arbre d'équipe que plus personne ne peut surveiller ligne par ligne. Arrive l'étape numéro 4, c'est le millier d'agents et le pilotage par intention pure. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de croire au millier aujourd'hui. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est sa marche. Et il est normal d'avoir une asymptote en fin de raisonnement. Petit détail que je savoure au passage, ce manifeste, Tcherny ne l'a pas publié sur le blog d'Anthropic, il l'a publié sous forme d'artefact généré par Claude Code lui-même. Il utilise l'outil pour documenter sa propre doctrine d'approbation. Et avant de classer tout ça comme la plaquette d'un vendeur, sachez que Microsoft a publié en mai sa propre version de la même échelle, tirée de sa télémétrie interne, avec d'autres noms, auteur, éditeur, directeur et orchestrateur. Quand deux concurrents décrivent indépendamment la même montée depuis leurs propres données, on peut arrêter de parler d'opinion. Maintenant, relisez la colonne qui compte dans ce tableau. À chaque étape, Tcherny nomme le goulot. Le goulot n'est jamais la motivation. À l'étape 1, le goulot c'est votre attention. Je traduis sa phrase parce qu'elle est clinique. Vous sentez que vous devez tout relire, donc vous ne quittez jamais l'écran des yeux. À l'étape numéro 2, le goulot, c'est le débit de revue. À l'étape numéro 3, c'est la confiance dans la boucle et le débit de décision de votre équipe. De haut en bas de l'échelle, le même verdict. Personne n'est bloqué par manque de volonté, on est bloqué par un système de vérification qui n'existe pas encore. Ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière reconnaîtront ce motif, le goulot de supervision. En effet, la production ne coûtant plus rien, c'est la validation du travail qui coûte beaucoup plus cher. Sur cette chaîne, je voulais montrer côté commerce, avec Walmart qui garde la caisse. Ici, dans l'atelier, on le prend côté établi, parce que ce goulot, vous l'avez aussi dans votre terminal. Et l'échelle de Tcherny, c'est le manuel qui va nous servir à le desserrer, cran par cran. Chaque montée d'étape retire de la confiance à votre attention, pour la poser sur une machinerie de vérification. Soit vos tests la fabriquent, soit elle n'existe pas. Alors, vous vous souvenez peut-être de l'étude METR de l'an dernier, la statistique anti-IA la plus citée du web, les développeurs expérimentés qui ont été mesurés 19% plus lents avec l'IA, alors même qu'ils se croyaient plus rapides avec. En février, METR a révisé sa propre cohorte et ce chiffre s'est retourné autour de 18% de gains sur les mêmes profils, avec un intervalle large et des biais que le labo assume. Leur explication tient en un mot, l'apprentissage. Et je vous demande de le retenir, parce que la première année de la courbe coûte, la suivante paye tout de suite. Ceux qui ont persisté depuis l'année dernière sont déjà de l'autre côté. Deuxième pièce, la plus brutale, une télémétrie publiée cette année par Pharos sur 22 000 développeurs mesure ce qui arrive quand les agents accélèrent l'écriture sans que la vérification ne suive. Le temps médian passé en revue de code a bondi de 441% en un an, et pendant que cette file d'attente explose, désormais 31% des merges supplémentaires se font sans aucune review. Lisez bien ces deux chiffres ensemble, parce qu'ils racontent le film complet d'une étape de ratée. Les équipes ne montent pas en capacité de vérification, elles abandonnent la vérification. Le moniteur ne forme pas l'élève, il descend de la voiture en laissant le moteur tourner. Troisième pièce, côté caisse, Ramp, le fournisseur de cartes bancaires d'entreprise, voit passer les dépenses réelles de dizaines de milliers de sociétés américaines et son index de juin donne la dépense IA de l'entreprise médiane, $11 par employé par mois. le prix d'un seul abonnement posé là comme un trophée. Quant au Sentinel du haut, lui, il en dépense plusieurs milliers de dollars par employé. Autrement dit, tout le monde a de l'IA dans son entreprise désormais. Sauf que la caisse raconte aussi autre chose, la médiane a acheté un badge, le haut du panier a construit une machinerie industrielle. Il faut que je m'arrête ici deux minutes parce que j'entends déjà l'objection, et pas seulement en commentaire, il existe encore toute une culture pour qui le code se mérite, pour qui la machine hallucine encore, se plante et ne tiendra jamais un vrai système. Je pense que cette culture a des arguments de 2024 et surtout se contente d'exemples de 2024, parce qu'aujourd'hui le problème, c'est que les gens qui ont le nez dans la machine tous les jours décrivent un autre monde, et pas n'importe lesquels. André Carpati, l'homme qui a littéralement inventé l'expression « vibe coding », a raconté cet hiver qu'il n'avait plus tapé une seule ligne de code depuis décembre. Pas une. Lui, qui écrivait 80% de son code à la main il y a encore un an, en écrit désormais zéro. Et il résume le basculement d'une seule phrase, « Les agents de code ne marchaient pas vraiment avant décembre. Aujourd'hui, ils marchent. » Et la Linux Foundation, la maison qui veille sur le noyau Linux depuis 30 ans, héberge désormais une fondation entière dédiée aux agents, montée avec Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google et Amazon. Et le standard agent.md est désormais adopté par plus de 60 000 projets open source. Même Ilya Sutskever, le plus prudent des pères fondateurs, celui qui répète sans cesse que les modèles restent inégaux, brillants à l'examen et sur les benchmarks, mais fragiles en fiabilité, ne dit plus que le code résiste à la machine. Il dit ce qui manque, c'est la fiabilité et le jugement. Relisez cette phrase, ce sera la nôtre. Le débat sur la capacité est terminé, le seul débat qui reste, c'est la supervision. Et Carpati ajoute un détail que les sceptiques devraient méditer au lieu de s'en servir comme bouclier. La maîtrise technique, dit-il, est un multiplicateur encore plus puissant qu'avant. L'architecture, les standards, le goût du système propre, tout cela vaut encore plus cher à l'époque où une équipe d'agents est désormais capable d'exécuter la partie codage. Non, l'expertise n'est pas morte, elle a changé d'étage. Ceux qui ont admis cette nouvelle réalité et s'en servent correctement gagnent des ordres de grandeur en productivité. Ceux qui s'en servent pour prouver que la machine ne montera pas défendent une barrière à l'entrée en les présentant comme une loi de la nature. C'est un réflexe psychologique classique de celui qui défend sa barrière à l'entrée en la présentant comme une loi de la nature. Le même mécanisme que les experts comptables face au logiciel de compta. Alors attention sur la maintenance, je le répète dans quasiment toutes mes vidéos. Un système que personne ne comprend mourra à la première modification. En revanche, l'idée que l'IA n'est pas assez performante pour coder, c'est une photo qui commence franchement à dater, pas une trajectoire de l'industrie. Et je vous parle de cette échelle en connaissance de cause, parce que je l'ai grimpée sans savoir qu'elle avait un nom. Mes systèmes tournent aujourd'hui avec une vingtaine d'agents et avalent un milliard de tokens par mois, et il y a un an, le moniteur d'auto-école, c'était moi. Je relisais tout, je validais chaque commande, et chaque session me laissait la sensation d'avoir travaillé plus, pas moins. Ce qui m'a fait changer d'étage tient en une décision, j'ai arrêté d'être la vérification, et je l'ai construite. Quant à vous, où en êtes-vous ? Il existe aujourd'hui un instrument de mesure que presque personne ne consulte, votre compteur de tokens. Alors, il ne s'agit pas de faire du token maxing brut et méchant, mais faisons le calcul ensemble. Un Sony 5 coûte 2$ le million de tokens en entrée et 10 en sortie. Un Opus 5, environ 25. Comme un agent lit énormément et écrit peu, et que le cash divise le prix de la relecture par 10 environ, la conversion honnête tourne autour de 3 à 4$ le million, tout compris. D'où une règle de pouce. 100$ de facture sur un outil type Cursor, c'est un gros 25 à 30 millions de tokens qui ont traversé la machine. Méfiez-vous en revanche des compteurs affichés par les outils, parce qu'ils comptent aussi les tokens relus depuis le cache comme les autres. Mais également, le forfait fait mentir dans l'autre sens. Un abonnement CloudMax à 200$ par exemple est souvent saturé et consomme bien plus que son prix. Pour vous situer proprement, convertissez toujours tout au tarif à payer. Maintenant, la jauge telle que je la lis en ce mois d'août. Sous le million de tokens par mois, vous discutez avec un chat. C'est très bien, mais vous ne délégrez rien. Vous avez simplement acquis un super Google. Autour de 10 millions, vous êtes le binôme de l'étape 1. Quelques dizaines de dollars par mois, et vous voilà pourtant déjà au-dessus de la médiane du marché, et de son badge à 11$. Autour de 100 millions, vous commencez à saturer votre abonnement max. Vous jonglez souvent entre les sessions, et vous vivez normalement à l'étape numéro 2, sur l'échelle de Tcherny. Dès lors que vous atteindrez le milliard, vous tenez une usine avec des routines qui tournent sans vous. Et l'ordre de grandeur n'est plus le même. OpenAI raconte que ses utilisateurs du Sentinel supérieur génèrent aujourd'hui plus de 60 heures de travail d'agent par jour. Cette jauge ne mesure pas votre intelligence. Elle mesure la part de votre travail que vous avez accepté de déléguer. Et donc directement la taille de la boucle de vérification que vous avez su construire pour obtenir un résultat satisfaisant. Encore une fois, attention, et c'est un rappel que je suis un peu plus las de devoir faire, on en a encore parlé mercredi soir entre nous, cette jauge sert à vous situer, jamais à viser. La course au compteur porte un nom, le token maxing, et je vais être honnête, elle a eu sa légitimité. Dans la deuxième moitié de 2025 et au début 2026, la consommation était un vrai signal. C'était comme ça qu'on repérait les précurseurs et les baleines. Sauf que depuis, les directions en ont fait des objectifs et des KPI d'équipe. Et les économistes ont un nom pour ce qui arrive ensuite, la loi de Goodhart. Une mesure qui devient un objectif cesse d'être une bonne mesure. Mesurez les tickets Gérard résolus, les gens ouvriront un ticket pour aller aux toilettes. Et si vous mesurez les tokens brûlés, eh bien vous aurez des tokens brûlés. C'est pourtant simple, mais un retour sur investissement se calcule en divisant la sortie par l'entrée, et les tokens sont l'entrée. Cette jauge reste donc un indice de votre pratique, au même titre que la façon dont vous parlez à des agents, trahit votre année de départ. Rien de plus, rien de moins. Venons-en donc au plan de passage, l'étape 1 vers l'étape 2. C'est la marche qui concerne l'immense majorité d'entre vous, et Tcherny liste lui-même les prérequis. Je les ai traduits en 4 chantiers dans l'ordre où je les poserais si je repartais de zéro. Comptez une semaine de soirée. Premier chantier, le contrat. Créez le fichier de consigne que votre agent lit à chaque session, c'est le fameux claude.md ou agent.md selon votre solution, claude.md chez Anthropic et ses équivalents chez les autres. Tout ce que vous répéterez à l'oral, session après session, doit, à un moment donné, redescendre dans ce fichier. Les conventions de projet, les commandes de compilation, les zones où l'on ne touche à rien, tant qu'une consigne reste orale, l'agent l'oubliera la session suivante. Vous l'avez sûrement déjà vécu, mais si vous l'écrivez dans le contrat, elle tient toute seule, et vous venez de supprimer la moitié de vos interventions de moniteur. Deuxième chantier, l'examen. C'est le cœur du passage et c'est le premier prérequis de Tcherny. Il vous faut une boucle de vérification en laquelle vous croyez, vous. Concrètement, une commande unique que l'agent doit lancer lui-même avant de vous montrer quoi que ce soit. Les tests, la compilation, le linter et si vous faites de l'interface, un test de bout en bout qui clique dans un vrai navigateur. La règle est simple, l'agent n'a pas le droit de vous présenter un travail qu'il n'a pas déjà vérifié. Confiez-le à l'agent d'ailleurs. Écrire les tests qui protègent un code existant est la tâche parfaite pour débuter, précisément parce qu'elle se vérifie. Troisième chantier, les bacs à sable. Le réflexe de tout faire tout seul dans un répertoire doit mourir ici. Un agent doit avoir une copie de travail isolée. C'est ce qu'on appelle un worktree sur Git. Un worktree par chantier, pour que deux agents ne se marchent jamais dessus. Réglez aussi la question des permissions, parce que chaque fenêtre qui demandera votre autorisation vous ramènera deux forces au siège de moniteur. Dressez la liste des commandes sûres et autorisez-les une bonne fois pour toutes dans la configuration. Mais surtout, gardez l'approbation manuelle pour les sujets sensibles, par exemple ceux qui touchent au réseau, au secret et aux suppressions. Puis, commencez à deux agents, pas 10, deux agents, avec deux tâches réelles, deux bacs, et c'est comme ça qu'on apprend à jongler. Quatrième grand chantier, la relecture. Avant que le travail n'arrive sur votre bureau, faites-le relire par un agent qui n'a pas écrit de code. Une session neuve, un seul mandat, trouvez ce qui casse. C'est une règle que j'applique partout dans mes systèmes. Le fabricant ne se juge jamais lui-même. Vous ne relirez plus que le diff final, avec le rapport de revue posé à côté. Attention, votre niveau d'exigence ne bouge pas d'un millimètre. Le code que l'on fusionne est celui qui aurait passé votre revue humaine. Ni plus, ni moins. Ce qui change, c'est le moment où vous intervenez. À la fin, sur des résultats, plus jamais pendant, plus jamais sur des frappes. Alors, comment savoir si vous êtes monté ? Deux tests. Celui de Tcherny d'abord, une question à se poser avant chaque sortie d'agent. Est-ce qu'un ingénieur l'aurait fait comme ça ? Ou bien ensuite, plus physique, lancez deux chantiers ce matin, fermez l'écran et partez deux heures en balade. Si l'idée vous est insupportable, votre boucle de vérification n'est pas terminée. Et c'est elle qu'il faut renforcer, pas votre tolérance au risque. Un mot sur le piège, parce que Tcherny la nomme aussi et qu'il est contre-intuitif, le danger, ce serait de rester trop prudent. Lui pointe l'inverse. Le piège, c'est d'augmenter le nombre d'agents avant que la boucle ait mérité votre confiance. C'est exactement le film des équipes de la télémétrie de tout à l'heure, celle qui fusionne sans relire. Le travail sort plus vite, la qualité s'effondre en silence, et la facture revient quelques mois plus tard avec des intérêts. Cela dit, il restera toujours des jours pour l'étape numéro 1. Du code de sécurité, un système de paiement, un sujet où l'erreur coûte beaucoup trop cher pour être déléguée, l'échelle n'est pas un concours de hauteur, la bonne question n'est pas votre étage dans l'absolu. C'est l'étage que mérite chaque tâche dans votre workflow pour votre travail. Alors, retournons la table pour finir, parce que cette échelle est aussi une grille de lecture pour juger les autres. La prochaine fois qu'une équipe ou un prestataire ou votre propre direction vous dira qu'elle est passée à l'IA, trois questions suffiront pour situer à peu près l'étage réel dans lequel elle se situe. 1. Combien d'agents tournent en parallèle sur une journée normale ? Et dans quoi sont-ils isolés ? Question numéro 2, montrez-moi la boucle de vérification, ce qui tourne sans qu'un humain ne la déclenche. Et 3, qui relie le livrable final et selon quel standard ? Une organisation à l'étape 0 vous répondra le nom de sa licence, une organisation à l'étape 2 vous répondra une chaîne d'outils avec des noms de commandes, vous repérerez la différence en 30 secondes. Gardez surtout ce chiffre en tête pendant l'exercice. Si l'usage médian du marché reste encore très basique, autour de 11$ de consommation par mois, atteindre l'étape 2 ne signifie pas simplement que vous avez rattrapé votre retard, cela vous place déjà nettement devant la majorité des utilisateurs. On ne dispose pas encore de données suffisamment fiables sur le nombre de tâches que les développeurs font réellement tourner en parallèle aujourd'hui, mais les seuls chiffres publics qui viennent des fournisseurs et qui mettent surtout en avant leurs utilisateurs les plus avancés permettent déjà de conclure « tous les signaux que nous venons de voir vont dans le même sens ». L'utilisateur moyen est probablement beaucoup moins avancé que vous ne l'imaginez aujourd'hui. Autrement dit, maîtriser cette deuxième étape constitue déjà un avantage réel. Et revenons une dernière fois dans la voiture. Parce que le moniteur d'auto-école ne lâche pas le double frein le jour où il devient courageux, il le lâche le jour où l'élève est capable de conduire, tout seul, sans risque. Vous ne montrez pas d'étape en vous forçant à regarder ailleurs pendant que l'agent travaille. Vous montrez le jour où votre examen existera, test, bac à sable, relecteur, et qu'il tournera sans vous. Votre attention redeviendra alors ce qu'elle aurait toujours dû rester, la ressource que l'on réserve aux décisions, pas à la surveillance. Et cette attention, autant l'investir là où elle vous fait réellement progresser. Comprendre ce que les autres testent, comparer vos méthodes, récupérer les bons outils plutôt que de tout reconstruire tout seul. C'est précisément pour ça que j'ai créé le Patreon. J'y prolonge ces vidéos avec des ressources pour passer à la pratique et surtout avec une communauté de professionnels qui échangent tous les jours sur Discord, partageant ses expériences et progresser au contact d'autres professionnels qui expérimentent au quotidien. Si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, le lien est sous la vidéo. Si vous voulez simplement continuer à suivre ce travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le défi de la vidéo, maintenant, c'est devenu traditionnel. Choisissez une vraie tâche qui traîne dans votre liste, montez les 4 chantiers, faites-la aboutir en étape 2. 2 agents qui travaillent en parallèle, chacun dans son propre environnement, sans que vous n'ayez à intervenir entre le lancement et la vérification finale. Ensuite, venez commenter ici sous la vidéo ou dans l'atelier pâtisseur du Discord. D'où est-ce que vous êtes parti ? La commande exacte que vous avez utilisée pour vérifier automatiquement le travail des agents, et aussi ce qui vous a le plus manqué pendant le temps où vous les avez laissés travailler seuls. C'est avec ces retours que vous pourrez ensuite calibrer la suite de votre atelier. Merci pour votre temps, surtout pour votre confiance, et à bientôt.
Il faut savoir que les ordinateurs ont remplacé les employés et les machines les ouvriers. Et là, je barre la route, c'est le cas de le dire, qui dit barrage IPH. Et je pense que moi, avec mes barrières automatiques, c'est fini. Les grossesses, les congés payés, les 13e mois, les certificats médicaux et les gens qui carottent chez eux. Vous comprenez chez moi? C'est une fois par an, un entretien, et puis c'est terminé. Et j'ai un outil économique qui est cohérent, qui fonctionne.
Perturbant.
On vous sent, oui, perturbé?
Oui, dire que les salariés, c'est que des feignants, c'est ce qu'ils viennent dire. Les salariés, c'est souffert de ma part. Et j'en vois tous les jours. Des gens qui souffrent, c'est des êtres humains. Une barrière, c'est loin d'être un être humain.
Moi, je souffre pas. Hein.
Non, mais j'ai jamais dit que vous étiez un être humain.
Je souffre pas. Hein.
J'ai jamais dit que vous étiez un être humain. On est bien d'accord.